Bonjour à vous, mesdames, messieurs, mes sœurs, mes frères. Tu l'as dit, Patrice, une des bonnes raisons d'inviter Richard Rogner aujourd'hui, c'était parce qu'il vient de sortir un nouvel ouvrage. On verra que ce n'est pas un recueil, ça va plus loin, on va en discuter. Et puis parce qu'il est primé par ce prix Kader Roussel des imaginales maçonniques et ésotériques. Et on verra que s'il est primé, il y a du sens à tout ça. Même si, je vais faire une confidence, Richard Rogner n'est pas franc-maçon. Hein. On verra qu'à travers ses écrits et cet ouvrage-là, principalement, Les frôlements infinis du monde, il y a des analogies, il y a des passerelles entre son travail d'écrivain, son travail poétique, son écriture et puis ce qui nous habite ici. Alors il était déjà venu il y a 2 ans nous parler avec un autre poète, Jacques Vialbessé, sur une thématique qui était la glorification du corps. Aujourd'hui on va pénétrer dans ces frôlements infinis du monde qui personnellement me rappellent les vibrations intimes qu'on est en capacité de vivre dans ce lieu. Original, si l'on est, chargé de symboles. Hein, quand on regarde cette voûte étoilée, je pense qu'on devrait pouvoir l'allumer. Je ne sais pas si on peut l'allumer, la voûte étoilée. La voûte. Voilà, ça nous parlera aussi. Richard étant habité aussi par ces lumières qui génère de l'ombre, on va y revenir aussi sur ce rapport ombre et lumière. Nous verrons que d'autres analogies vont conforter sa présence en ces lieux aujourd'hui. Alors quelques mots d'abord sur le titre d'un livre qui s'inscrit, comme toujours, dans l'œuvre de Richard Rogner, dans une sorte de temporalité. Tu peux nous en parler ? Ce titre-là, on l'avait déjà lu dans un de tes ouvrages précédents.
C'est cela. En général, il y a toujours des clins d'œil, des passerelles. Oui, des clins d'œil, des passerelles qui existent entre mes divers livres. Et ces passerelles, ça fait très longtemps d'ailleurs que je les pratique. Et en fait, l'expression « les frôlements infinis du monde » se retrouve dans l'ouvrage précédent qui s'appelle « Dans les méandres des saisons ». Et dans les méandres des saisons, il y a un texte que je peux signaler, d'autant plus qu'il est assez emblématique de ce qu'on retrouve dans les frôlements infinis du monde. Alors ce texte-là qui se trouve vers la fin des méandres des saisons, le voici, ça va aller assez vite. « Les premiers secrets du jour, leur lumière qui s'attache à moi ». Ce sont les oiseaux qui les préservent, les oiseaux que je nourris lorsque le froid mordant gonfle leur plumage, comme s'ils voulaient chasser l'âpreté de l'hiver. Les premiers secrets du jour, ils ne font qu'un avec moi, grâce aux pics, aux jets, aux merles, aux moineaux turbulents, aux rouges-gorges, aux mésanges qui chassent de ma maison les encombrantes tristesses, les regrets qui s'infiltrent partout, les idées noires et la crainte de ne pas pouvoir reconnaître parmi mes phrases les frôlements infinis du monde. Voilà, donc j'ai repris cette expression qui forme le titre de celui-ci, les frôlements infinis du monde. Tout en sachant très bien que dans ce poème, il y a des éléments qu'on retrouve effectivement, des thématiques qu'on retrouve dans les frôlements infinis du monde.
Voilà, alors, les frôlements, pourquoi les frôlements et pas par exemple les vibrations, tiens.
En fin de compte, j'ai toujours été marqué, non pas par la chose, les choses ne m'arrivent jamais d'une manière directe, d'une manière franche, d'une manière frontale, mais elles m'arrivent toujours, ou c'est peut-être moi qui les perçois ainsi. Je les perçois dans leur à côté, en quelque sorte, dans ce qu'elles ont d'authentique qui semble précisément nous échapper, puisqu'on ne fait que les frôler. Et les vibrations, pour moi, effectivement, dans les frôlements, il y a la notion de vibration, et quasiment une polysémie semblable, mais la vibration est quelque chose de vraiment de perceptible, tandis que le frôlement est quelque chose qui arrive en même temps qu'il disparaît. Donc, et c'est ça qui m'intéresse, c'est le passage, si vous voulez, de ce qui est vers ce qui n'est pas, de telle sorte que ce qui n'est pas reconstruit à nouveau ce qui est, etc., et vice-versa, et à l'infini. Voilà. D'où la notion d'infini. Et du monde, parce que je suis, comme chacun d'entre vous, un habitant du monde avec toute la polysémie que cela peut représenter, aussi bien le monde des hommes, le monde des êtres vivants, mais le monde de la nature, le monde de l'univers, et si l'on veut, beaucoup plus... fortement encore, du point de vue cosmique, le monde qui est l'univers lui-même. Voilà. Parce que j'ai toujours été pris entre cette tension, entre ce qui est à portée de main, à portée de regard, à portée d'oreille, à portée de tous les sens, ce qui est et ce qui nous survole en quelque sorte et qui est en dehors de nous-mêmes. Voilà.
Mais ce monde qui fait... ce que je suis, ce que...
Oui, bien sûr.
Voilà.
Oui.
D'accord. Donc, on va en venir justement à ce rapport à l'ouvrage, et non pas le recueil. Alors, on avait envoyé, Anne-Laure et moi, un ouvrage à une organisatrice d'un salon de la poésie à Tomblaine, où tu étais invité, mais tu as choisi de venir aux Imaginales, donc on en est ravis. En lisant... ces textes, voilà ce qu'elle en dit. C'est plus qu'un simple recueil, c'est pour moi la lecture à la fois heureuse et mélancolique d'un beau journal intime et poétique, donc à partager, dit-elle. Alors, je pense que cette définition-là correspond à ce que tu veux.
L'idée qu'elle en parle comme si c'était un journal intime rejoint, si vous voulez, ma façon de composer l'ouvrage, dans la mesure où les textes présentés sont des textes que j'écris quasiment au jour le jour, même si ça n'écrit pas tous les jours. Il peut y avoir des ruptures de 6 mois, d'un mois, mais c'est toujours dans un ordre, j'allais dire, chronologique. Le père Chronos est toujours là, présent, pour me suivre. Donc, forcément, ça peut avoir l'aspect d'un journal, dont je ne bouscule pas les divers moments, ce qui fait que bon, ça n'apparaît pas ici dans le livre, mais si on regarde les manuscrits que je lègue progressivement à la BMI d'Épinal, parce que si on regarde les manuscrits, on se rend compte que chaque poème porte une date et un lieu de composition. Je suis très sensible au lieu, comme je suis très sensible au temps, porte une date exacte. Et si on compare avec les textes qui sont dans l'édition terminée, dans l'édition finale, on se rend compte qu'il n'y a pas de bousculade, c'est vraiment au jour le jour, sauf évidemment, puisqu'il s'agit quand même d'un fait littéraire, il s'agit de fignoler la fin, faire en sorte que les poèmes de la fin, notamment le dernier poème, rassemblent en quelque sorte... en sorte de conclusion, les thèmes majeurs, les thèmes principaux qui circulent et courent à travers le recueil.
On peut dire que c'est une histoire que tu racontes, une narration dont le jeu serait le héros.
Oui, on peut dire cela, mais cette narration, cette façon de me dire, de me raconter... quelquefois en jouant avec le pronom, parce que ce jeu peut être un tu qui est moi-même et qui peut être l'autre en face, et c'est ça qui est très, très important. Cette narration, en fin de compte, elle n'est pas en quelque sorte l'expression de ce que je suis exactement, parce que la littérature, c'est toujours autre chose. Si je ne disais que ce qui je suis, que ce que je ressens, que ce, d'une manière assez égoïste, comme on pourrait écrire un journal intime, ça n'aurait aucun intérêt. C'est-à-dire que ma narration, en quelque sorte, elle prend racine en moi, dans ma propre expérience, mais en même temps, elle tente d'exprimer ce que chaque lecteur est capable de retrouver de lui-même dans cette narration-là. Donc j'essaye toujours, même le jeu pour moi c'est un jeu dans lequel je m'évacue quand même, parce que je fais quand même la distinction entre l'homme qui vit tous les jours, qui a les tâches quotidiennes qu'il doit assumer, et l'homme qui écrit. Et quelquefois c'est très difficile de concilier vraiment les deux, tout en sachant que l'homme qui écrit n'existerait pas sans l'homme qui vit tous les jours, et que l'homme qui vit tous les jours a bien souvent quelquefois le besoin du secours du poème et de la littérature. Donc c'est toujours quelque chose de très très imbriqué.
Alors nous le savons, ce thème, enfin nous le savons, vous ne savez peut-être pas, mais le thème des imaginales maçonniques et ésotériques cette année est dédié aux croyances, hein. Et Richard Rogner, à travers ses écrits, confirme sa foi dans les mots. Hein. Le mot est important, mais on va un peu travailler sur ce sujet. Avant d'en parler avec lui, je voudrais simplement citer un extrait d'un de ses poèmes où il parle des mots et il s'intitule « J'aime les mots ». Alors, les mots, ils sont ma main, mes doigts, leurs empreintes, ils gouvernent l'espace, ils prolongent le temps, ils veillent pour moi sur les contrées inexplorées de mes poèmes à venir. C'est page 74.
Oui, c'est ça, c'est le poème 74.
Alors, qu'est-ce qui attache Richard Rogner aux mots ? On le pressent, mais quel est le plus important ? Est-ce que c'est le mot lui-même ?
Ou ce que le mot recouvre ? Oui. Le mot en soi, c'est-à-dire que j'ai quand même été toujours fasciné par les mots, et je suis un grand lecteur de dictionnaire, du dictionnaire, hein, le tout simple petit Robert, hein, mais ça c'est depuis très longtemps. Et je me souviens, Guy Evic, cet ami poète qui a disparu depuis un certain temps déjà, était un grand lecteur de dictionnaire aussi. Je crois qu'il y a besoin pour moi, et comme c'était pour lui, de voir les mots non simplement comme quelque... Parce qu'à force d'utiliser les mots dans la vie courante, ça se fait d'une chose, c'est, ça se fait d'une manière extrêmement banale. Le mot, en fin de compte, c'est-à-dire que le mot, dans ce qu'il a de charnel, dans ce qu'il a de fort, de grand en quelque sorte, est effacé et oblitéré véritablement par ce qu'il signifie. Hein. Par exemple, quand vous dites la table, bon, je suis assis devant la table, vous oubliez le mot, mais vous voyez la table, c'est ça qui est intéressant. Mais dans ma tête, moi, il y a la table, mais il y a le mot avant, il y a le mot qui est là et qui est toujours là. Ce qui fait chez moi, le mot est quelque chose de toujours traversé de sève, de sang, et quelque chose d'extrêmement vivant. Et il s'est tellement vivant que physiquement, il devient moi-même. Hein. Mais je pense que c'est ce qui se passe pour la plupart des écrivains. Quand j'ai dit les mots, ils sont ma main, mes doigts, leurs empreintes, ils gouvernent l'espace, effectivement. Mais pour nommer les choses, hein, c'est toujours l'éternel débat entre les mots et les choses, mais en même temps, ces mots, les mots en eux-mêmes sont des éléments vivants sur lesquels je m'appuie, même quand je n'écris pas. Hein. C'est ça.
Ce qui ne t'empêche pas,
voilà, c'est ce que
quelques temps auparavant, dans Un parfum de lilas, d'évoquer, je cite, le trop-plein de paroles qui trahit l'existence.
Voilà.
Donc il n'y a pas une réelle confiance dans les mots non plus.
Non. C'est-à-dire que le mot. Bon, je fais la distinction entre le mot, les mots et la parole. C'est ça. C'est-à-dire que si je continue un petit peu ce que je viens d'évoquer. Les mots, ils sont là aussi pour exprimer une parole, effectivement. Mais lorsque les mots eux-mêmes deviennent véritablement pléthoriques et sont embourbés dans une sorte de surplus de paroles, de surcroît de paroles, à ce moment-là, ils sont dissimulés sous la logorée. Et c'est ça que je veux dire. En fin de compte, un excès de paroles tue les mots. Ce qui fait qu'à certains moments, les mots ne sont bien que dans le silence. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une espèce d'oscillation entre ce qui est et ce qui s'efface. Hein, le silence effaçant les mots, mais les mots se nourrissant du silence. Hein. Et c'est le trop-plein de paroles que je signale. Je dis à un certain moment, je crois que c'est dans le poème de la page 54, je dis, je pense que c'est ça.
Oui, c'est page 54. Oui.
Voilà. Un parfum de lilas écosse la soirée, on y entre, on est bien, on s'invente une joie. Plus d'un soleil explose en notre sang frileux, on veut la chaleur de la terre en notre cœur mortel, on cherche le passage qui conduit le matin aux limites du jour, là où le soir retient dans ses calmes filets le trop-plein de paroles qui trahit l'existence. Vous voyez ? Donc il faut faire. C'est-à-dire que pour bien. En quelque sorte, la parole à ce moment-là devient gênante. Elle devient gênante parce qu'elle a tendance à dire, mais d'une manière encore incomplète, à dire ce que l'on ressent véritablement. Et ça, c'est un des drames du poète, en fin de compte. Enfin, on n'est jamais satisfait parce qu'on a l'impression qu'on n'a jamais pu dire, sans le trahir, la réalité des choses. Hein? Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de parole superflue, ce discours qui n'en finit pas, ces discussions qui ne mènent à rien, en fin de compte, ne font que trahir les mots. Voilà. Quand on me donne la parole, par exemple, quelquefois j'ai l'impression de dire des choses, d'en dire peut-être un peu trop que je ne devrais en dire. Voilà. Donc en ce moment, je fais même mon propre procès. Voilà.
À tel point, tu parlais de silence, que le silence est aussi un mot, hein, qui, mais aussi un état, qui revient souvent dans tes écrits. Alors le silence, il n'est pas, j'allais dire, il est habité. Enfin, on le sent habité. Tu peux nous en parler de ton silence, hein.
C'est-à-dire que je vis dans un environnement quand même assez silencieux. Même si je suis mélomane, que j'écoute régulièrement de la musique, mais la musique pour moi, lorsqu'elle est bien, quand elle fait partie de sa propre, de sa fibre, de son propre univers intérieur, elle est ressentie comme du silence. Je sais pas moi, un forte que dans une symphonie que vous aimez particulièrement n'est pas ressenti comme quelque chose d'agressif. Elle peuple véritablement le silence intérieur. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, le silence, j'en ai besoin matériellement pour entendre les oiseaux, pour entendre les frémissements des insectes dans les herbes ou des choses comme ça, parce que je tente vraiment facilement l'oreille. J'écoute volontiers, et pour bien écouter, on a besoin de silence. C'est peut-être paradoxal, mais c'est comme ça. Hein? Et puis, le silence, c'est quand il est véritablement intériorisé, se transforme dans le domaine de la création, j'allais dire. Le silence, par exemple, je suis quelque part à mon bureau, et il y a un texte qui est en train de se mettre en place. Donc c'est comme si le silence existe autour de moi, et puis en plus forte raison, on s'enferme dans sa bulle, et là on sent véritablement une sorte de silence. Mais en même temps que ce silence intérieur, il y a le tintamarre de l'inspiration et le tintamarre de la création, qui fait un fameux bordel, comme on peut dire. Ça sonne partout, et ça rejoint en quelque sorte l'idée des mots dont on parlait tout à l'heure, les mots qui viennent à l'assaut de sa propre pensée, et qui portent en même temps les vibrations intérieures et les vibrations du monde extérieur. Et lorsqu'on réussit, en quelque sorte, à établir une sorte d'équilibre entre ce silence initial dont on a besoin pour écrire et le tintamarre intérieur de l'écriture, à ce moment-là, ça peut aller très vite, le poème sort, et la plupart du temps, quand il y a eu vraiment une symbiose entre ces deux éléments dont je parle, le poème est réussi.
C'est un silence actif où l'énergie circule.
C'est de l'énergie, c'est un silence actif où l'énergie circule. Oui, tout à fait.
Et donc, ça nous évoque, nous, francs-maçons, ce silence qui est important pour nous. L'apprenti, par exemple, reste silencieux pendant un an, deux ans, selon les lieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il est, euh, qu'il n'est pas dans cette énergie qui circule. Au contraire, il y contribue. Donc je ferme la parenthèse, mais voilà encore un lien qui fait que Richard Renier méritait ce prix Cadet-Roussel cette année. Nous allons voir que d'autres analyses de cet ouvrage nous amènent à penser, à renforcer ce sentiment. Et il y a un thème qui est très présent aussi, c'est celui de la lumière. Les étoiles qui sont ici sont dans ces pages, le soleil, la lune, qui sont derrière moi. Alors, je vais t'inviter à lire La beauté des étoiles, c'est page 112.
Page 112, oui.
Et après, on parlera de ce rapport entre l'ombre et la lumière, parce que, effectivement, c'est l'ombre est générée par la lumière, et sans ombre, la lumière n'est pas.
La beauté des étoiles dépend de l'œil qui les regarde, comme l'amour dépend des caresses données. Voir n'est peut-être qu'un choc de la lumière dans la nuit des temps qui nous enveloppe, et si nous appelons le jour à la rescousse, c'est pour que l'ombre dessine ses contours et rende l'univers plus proche de nos espérances. Je sais que l'automne dépose sur la fragilité des fleurs qui s'éteignent des trésors de douceur qu'on ne soupçonne pas, mais qu'un futur printemps aimera faire éclore, pour que chacun de nous y trouve son compte et sa joie. Elles sont les étoiles dans les yeux clairs du chat qui passe devant ma fenêtre et qui les entraîne sous les branches basses de l'arbre où il se réfugie. Les plus modestes choses observées ici-bas sont sûrement le double de ces immenses mondes où se mêlent et s'entêtent ce que nos rêves seuls sont capables de percevoir. Feuilles vacillantes de l'automne, avant de toucher terre, vous laissez vibrer dans l'air les mêmes tremblements infinis que ceux qui relient les formes insoumises de l'espace courbé sous le temps. La beauté des étoiles n'est que le souvenir d'un regard apaisé sur la fuite en avant d'un homme en train de vivre. Mais revenons aux chats, aux feuilles, ils sont d'ici. Ne soyons pas plus qu'eux. Disons-nous que le peu qu'ils proposent est le sommet précieux de notre destinée. Vous savez, c'est un des poèmes fondamentaux du recueil, effectivement. Oui, oui, oui.
C'est pour ça que je l'ai choisi.
Oui, oui, oui,
peut-être.
Tu as raison.
Fondamental, oui, sans doute. L'ombre et la lumière, mais ici on perçoit, quand tu écris, les plus modestes choses observées ici-bas sont sûrement le double de ces immenses mondes où se mêlent et s'entêtent ce que nos rêves seuls sont capables de percevoir. Il y a toujours une relation entre le macrocosme et les choses de la vie,
oui, oui.
Le microcosme.
Quelque part. Oui, c'est
ça. Oui. Tu peux développer ça?
Mais c'est que très tôt, j'ai été... Je pense que ça vient de loin, en fait. Non pas que je veuille me raccrocher systématiquement à des éléments biographiques qui ne seraient qu'anecdotiques, mais qui, peut-être, apporteraient quelques éclairages. Très tôt, même avant d'écrire de la poésie, je me suis rendu compte un peu plus tard, enfant, lorsque j'étais enfant, puis adolescent, je me mettais moi-même dans un état, si vous voulez, de sentiments poétiques. Et je n'utilisais pas de mots encore. J'étais là simplement, parce que pour tout vous dire. J'ai vécu quand même jusqu'à l'âge de 16 ans en pleine campagne, et ça c'est important, ça marque les premières années, à plus forte raison, marque énormément un individu. Et je vivais dans un lieu extrêmement circonscrit, certains le savent mieux que d'autres, qui était je dis toujours l'école, je devrais dire ce lieu de cette section du Val d'Ajol qui s'appelle La Chaume, autour de l'école où ma mère officiait véritablement. Je dis bien officiait, c'est pas pour rien. Et Donc, ma vie en dehors de l'école était rythmée par le travail des paysans, par les jours qui passaient, par les saisons, avec un sens du naturel auquel je ne pensais pas à cette époque-là, mais après coup, je m'y suis à y penser. Et dans ces lieux très, je sentais que comme c'était un espace très fermé, donc j'avais la possibilité de l'explorer un petit peu avec mon frère, et j'étais attiré par exemple par une fourmilière. Et on parlait du bruit tout à l'heure. Bon, je ne sais pas si vous en avez déjà rendu compte, mais ces grosses fourmilières qu'on voit d'ailleurs de moins en moins, qui sont de véritables tas, on entend des grouiller quand même les fourmis. Mais je me souviens que petit, je passais beaucoup de temps à écouter ce grouillement et à le regarder aussi. Donc c'était à ras d'enfant en quelque sorte. Et puis les soirs, je me souviens très bien aussi que je passais beaucoup de temps dehors à regarder le ciel, à regarder les étoiles, et à établir en quelque sorte une relation directe entre ce lieu extrêmement circonscrit, avec tout ce qui pouvait s'y passer d'anodin, de simple, et puis cette voûte céleste, véritablement, qui était comme, j'allais pas dire qui était comme un appel pour moi, j'avais pas envie de sortir du lieu où j'étais, mais qui était comme la justification, véritablement, de ce que je voyais en bas. Voilà, c'est ça que... Et en fait, il y avait... Je sentais très bien, mais je n'ai pu le formuler que très tard, et ça circule dans mes poèmes. Et ce qui m'intéressait véritablement, bon, évidemment, c'était la chose vue, la chose regardée, la chose entendue. Ce n'était pas non plus simplement les étoiles qu'on avait appris à nommer, plus ou moins, mais c'était ce qu'on ne voyait pas, cette espèce de tension, de lien qui existait entre le sol où j'étais et le ciel qui était au-dessus de moi. En fait, ce n'était pas le ciel qui m'intéressait le plus, ce n'était pas non plus ce sur quoi j'étais, mais c'était ce qui existait entre les deux qui n'était pas visible. Ce qui fait que c'était l'invisible qui devenait ma propre vérité. Et ça, ça a toujours été, et ça a toujours circulé dans mes poèmes.
Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est la fameuse formule de la table d'Émeraude qui est mise en... qui est valorisée.
Oui, sûrement, oui.
Alors, valoriser sont les choses vécues, les choses vues, la fourmière, le chat. Oui. Ça, c'est important. J'ai te demandé de lire ce poème qui, en fait, s'inspire de faits divers, entre guillemets.
Oui, faits divers.
On peut dire le mot. Hein. Page 25. Souvent, je suis passé.
Page 25. Ah oui. Alors en fait, dans ce livre, il y a deux poèmes où il y a effectivement question de faits divers.
Il y en a un autre, page 130,
il
pleuvait. Tu peux les lire les deux.
Je peux lire les deux, oui, parce qu'ils vont ensemble.
Oui. Hein. Oui. On va se faire plaisir.
Voilà. Et ce sont des poèmes dans lesquels, ces deux poèmes-là, ce sont deux poèmes dans lesquels je ne fais que dire ce qui est. Mais dire ce qui est de telle façon que j'arrache leur... comment j'allais dire je trouve pas le mot philosophiquement. J'arrache ce qu'ils ont de perceptible directement, j'arrache cela pour le transformer en quelque chose de plus, j'allais dire pas d'éternel, ce serait prétentieux de ma part, mais de quelque chose qui exprime l'essentiel, non pas simplement dans un temps donné, mais dans un temps beaucoup plus vaste. Mmh. C'est-à-dire que si on relit ces textes-là dans 50 ans, voire dans 70 ans, ils auront toujours la même intensité.
L'universel côtoie, voilà, l'intemporel.
L'intemporalité, mmh. Voilà. Okay. Souvent, je suis passé devant cette maison, donnant sur le chemin qui conduit près du lac où j'aime prendre, en rêvassant, le pouls du temps. J'avais chaque fois un doux regard pour le vieux couple qui, au printemps, chargeait de géranium le rebord des fenêtres. En hiver, la maison se couvrait de silence. Au beau jour, lui lisait son journal sur le pas de la porte. Elle cousait ou observait la vie se replier sur eux. La maison à présent n'est qu'un bloc d'abandon. Les volets sont fermés, les herbes étouffent ce qui fut leur fierté. Seul, un rosier caresse un mur. Il attend, plein d'espoir, les gerbes de clarté que prépare le ciel. Sont-ils morts ? Ils le sont. Elle est morte avant lui. Il n'a pas supporté le creux noir de l'absence. Donc, vous voyez, bon, pour tout vous dire, j'avais écrit 4 ou 5 pages de prose pour dire cela, où je disais l'endroit exactement, la maison à Julien Ru, le lac de Gérardmer, etc. Mais tout ça, ça a été effacé. Je n'ai fait que retenir véritablement ce qui est... Ben, le mot lui-même, le mot dans ce qu'il a de plus porteur de sens, en fait. Mm-hmm. Hein. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Et l'autre texte, page combien tu m'avais dit ?
130.
130, qui est tout à fait dans la même direction. Lorsque j'étais enseignant à l'école normale, j'avais une collègue qui restait une amie très longtemps, c'était Michel de Mangel, certains l'ont peut-être connue, qui est morte très âgée et que j'avais l'habitude de voir souvent. Et on faisait. Elle n'habitait pas loin du Quai des Maux, dans l'un des immeubles de l'avenue de Lattre. Hein. Et de temps en temps, je la raccompagnais jusqu'à l'entrée de sa porte. Et elle lisait beaucoup, c'était une grande lectrice, elle lisait beaucoup de poèmes. Et un jour, elle m'avait surpris en me citant, elle avait appris des poèmes par cœur, des poèmes de moi par cœur. Ce qui m'avait énormément touché, et j'ai trouvé ça extrêmement bouleversant de la part de cette vieille dame, toujours... toujours vaillante et toujours à l'écoute, qui a un sens du partage absolument extraordinaire. Donc, quand elle est morte, je suis donc allé aux obsèques. Il pleuvait ce jour-là lorsqu'on te mit en terre. Quelques jours avant, nous avions marché côte à côte et parlé des livres qui t'aidaient à poursuivre ta vie. Tu étais vieille, mon amie, très vieille. Mais inlassablement tu cherchais l'espérance, malgré le sentiment de la rive immobile où tu allais bientôt accoster. La cérémonie fut simple, pleine d'une douceur qui donnait le frisson, mais un frisson qui n'essoufflait personne et rendait aux averses leur humaine grandeur, aux fleurs aussi que chacun avait tendrement déposées sur ton cercueil qui semblait absorber tout ce que nous avions d'amour dans le cœur. Tu n'avais rien voulu d'autre que des poèmes à lire auprès de toi. Pas de cérémonie, pas de bénédiction, rien dans la grisaille que quelques pages bienfaisantes où l'on sentait que c'était en elle que se jouait une fois encore le destin du monde. Il pleuvait, nous commencions à vivre avec ton souvenir à la porte de l'effroi, comme à celle paisible d'une lumière toujours renouvelée.
Voilà. Donc, la lumière.
Toujours la lumière, oui. C'est-à-dire que dans ce livre, en fin de compte, même s'il y a des choses mélancoliques, nostalgiques, même s'il y a des choses un peu cruelles, il y a toujours une échappée vers la lumière, vers quelque chose, vers une sorte de sérénité, vers un appel, vers... une complicité avec ce qui peut nous aider à vivre.
Alors, échapper, le mot a été dit, ça me permet d'amener une autre thématique forte dans cet ouvrage, qui est celle du mouvement. Ça nous est cher aussi, nous qui cheminons, on le verra dans l'entretien qui va suivre tout à l'heure. Le chemin est important pour se découvrir. Je cite cet extrait. Ouvre ton cœur. Tu es un voyageur qui ne sait d'où il est parti et où il revient. Ouvre ton cœur, fends-le comme le bûcheron ouvre d'un coup de hache une branche rétive. Cherche-y la lumière qui naquit bien avant toi dans les déchirures du temps et de l'espace confondu. Voilà, le voyageur, la lumière, l'espace et le temps confondus. Ça, c'est aussi fort dans tes écrits.
Oui, oui. J'ai toujours été passionné par, même si je ne fais pas, c'est pas mes lectures journalières, mais j'ai été passionné par l'histoire, en quelque sorte, de l'origine du monde. Et je suis toujours très, très intéressé par les travaux des astrophysiciens. Donc, la notion de temps et d'espace, et si on lit le recueil attentivement, on se rend compte assez souvent que dans certains poèmes, l'espace et le temps sont quasiment la même chose. Hein? C'est ça qui est important. Donc ça s'inscrit dans une contemporanéité qui est précisément celle de la recherche astrophysicienne, si on peut dire. L'espace... sont deux choses effectivement que j'ai du mal de
dissocier. La recherche, tu as dit le mot,
ouais.
Qui évoque
le cheminement, tu veux,
oui, qui évoque la quête.
La quête.
Sentiers ne sont pas que des lieux où je marche.
Voilà, les sentiers ne sont pas que des lieux où je marche, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, ça n'est pas le fait d'aller dans une direction précise, dans le fait d'atteindre un but, donc de me déplacer vers quelque chose. Mais ce qui m'intéresse, en fin de compte, c'est peut-être les chemins de traverse que je pourrais prendre. C'est pour ça que le mot sentier est évocateur, parce que le sentier, c'est pas une route. Le sentier, ça part un petit peu dans tous les sens, il y a des circonvolutions. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le chemin est pour moi, c'est-à-dire que quand je marche, j'ai l'impression que ma pensée se glisse dans. C'est pas simple. Bon, il y a la marche, effectivement, la marche pour le plaisir de marcher. Et souvent, la marche pour moi. Le cheminement, en quelque sorte, est un moyen d'entrer en relation avec le cheminement intérieur que requiert un poème. Et il m'est arrivé très souvent, en marchant précisément, de trouver le point de départ d'un poème. Comme si c'est pour ça que je dis que le sentier n'est pas simplement le chemin où je marche, mais parce que en même temps, je peux en quelque sorte me dire je ne suis pas en train de marcher, je n'existe pas en tant qu'individu en train de marcher, mais il y a comme une espèce de pensée qui est en moi qui prend ma place et qui fait qu'elle avance et se déploie pour donner une phrase, deux phrases, voire et des vers pour écrire un poème.
Le chemin me construit.
C'est le chemin qui me construit.
Ah, c'est ça. Tu peux lire le page 86, ce poème.
Page 86.
Les sentiers ne sont pas des lieux où je marche.
C'est ça. Les sentiers ne sont pas que des lieux où je marche. Quand je m'approche d'eux, ils m'accueillent ou me boudent. Si mon cœur est fébrile et mes pas apeurés, ils m'invitent à méditer avec eux. Mais si plein de colère, de morgue, de vanité, je ne sais pas chérir les herbes qui les bordent, ni ne sais écouter les insectes épris des fleurs que le ciel ne regarde jamais de haut, alors ils rechignent les sentiers. Je sens que malgré les cailloux frôlés, les feuilles craquantes en automne, ils me refusent l'amitié qu'ils m'accordaient lorsque, jeune garçon, je les foulais pour rejoindre mon camarade qui habitait une ferme isolée, et dont les parents, contrairement à d'autres, aimaient nous voir lire en silence les ouvrages que nous empruntions à l'école ou à mon père. Les sentiers sont les lignes d'un livre irréel que j'écris chaque jour en marchant, un livre sans pages visibles où ma vie passe avec les saisons. Voilà. Là, c'est révélateur. Ça dit mieux que
j'aime
ce que
beaucoup
je voulais
ce poème.
Ouais. Les sentiers sont les lignes d'un livre irréel que j'écris chaque jour en marchant un livre sans page visible où ma vie passe avec les saisons. Et en fin de compte, c'est cela véritablement. Si on pouvait donner une définition de la poésie, je pense que ce serait peut-être cela aussi.
Ouais. Un chemin porteur d'espoir, hein,
oui.
D'espérance en tout cas.
Ouais.
Alors, ça me renvoie à ce que disait la lectrice tout à l'heure en parlant d'une heureuse lecture, mais une lecture aussi mélancolique. Alors, on va revenir sur... Tu as déjà un peu abordé cette question de la nostalgie, de la mélancolie, même si l'ouvrage est une véritable ode à la vie, enfin, à mon sens. Page 58, où il est encore question de silence, mais où on peut imaginer une certaine mélancolie, quand même.
Oui. Bon, avant de lire véritablement ce poème, à moins qu'on en parle du souvenir, tu sais, le souvenir qui est fondateur en quelque sorte, mais dont il faut quand même se méfier.
On peut en parler.
On peut en parler maintenant.
Oui, puisqu'on est dans nostalgie, ça inspire effectivement le mot souvenir.
Effectivement, la nostalgie souvent est comme une excroissance. Du souvenir. On se souvient de quelque chose, surtout certains souvenirs d'enfance qui nous ont construits. On se souvient de quelque chose, on se les remémore, et tout un paysage, tout un monde apparaît. Bon, ce n'est plus ni moins que le processus proustien, en fin de compte, de la recherche du temps perdu. Mais est-ce que, véritablement, on retrouve le temps perdu ? J'ai toujours posé la question, est-ce qu'il y a vraiment un temps retrouvé ? Donc, en même temps que le souvenir est constructeur, permet en quelque sorte en s'appuyant effectivement sur l'enthousiasme, mais même aussi sur la nostalgie, mais la nostalgie n'est pas forcément quelque chose de douloureux. La nostalgie peut être quelque chose d'apaisant aussi. Mais il faut en même temps se méfier de ce souvenir, parce que ce souvenir, en fin de compte, il est vécu dans le moment présent. Et quelquefois, vécu dans le moment présent, il a tendance à être enjolivé pour essayer de conjurer ce qui est difficile à vivre dans un moment présent. Donc c'est pourquoi, de temps en temps, et la plupart du temps, dans mes recueils, lorsqu'il est question de souvenir, il y a en même temps contestation de ce souvenir, il y a en même temps suspicion du souvenir, ce qui ne fait que rejoindre l'idée que une chose est en même temps ce qu'elle est et aussi son contraire. Une chose peut être bénéfique comme elle peut être dangereuse. Et bon, je vais vous lire le poème parce que effectivement, j'en parle dans la deuxième strophe notamment, page 58. Silence, tu me dis silence, mais c'est un grand cri qui traverse mon sang. Mon enfance revient avec une espèce de tristesse qui dépouille la lumière de sa profonde réalité. C'est vrai que l'enfance n'est pas le pays clair où mes blessures s'habillaient d'étoiles et de fleurs, aussi légères que les fumées qui tâtonnaient sur les champs quand en automne on brûlait les pailles abandonnées. L'enfance, dans mon présent, a des allures de charmant traître. Je la vois venir de loin avec ses petits airs consolateurs. En fait, elle m'assaille avec de languissants souvenirs dont je ne sais plus s'ils sont vrais ou s'ils cherchent à déformer les paroles courageuses qui réchauffent un nouveau départ. C'est toi en moi qui me dis silence, mais c'est toi le grand cri qui ruisselle en mon corps, le grand cri aussi fort que l'amour qui entre aujourd'hui dans ma vie. Voilà. Hein, quand j'ai dit l'enfance dans mon présent a des allures de charmant traître, je la vois venir de loin avec ses petits airs consolateurs, en fait elle m'assaille avec de languissants souvenirs dont je ne sais plus s'ils sont vrais ou s'ils cherchent à déformer les paroles courageuses qui réchauffent un nouveau départ. Donc, à ce moment-là, quand je dis ça, c'est un moment où le présent vécu est un présent où quelque chose de neuf se passe dans ma vie. Donc, ce quelque chose de neuf qui se passe dans ma vie n'a pas besoin précisément des charmes du souvenir, des charmes de l'enfance, puisque c'est quelque chose de neuf qui m'occupe tout entier. Je parle ici de l'amour. Et dans ce livre, effectivement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poèmes qui sont des poèmes d'amour. Et quand je dis à la fin de ce poème, c'est toi en moi qui me dis silence, mais c'est toi, c'est l'autre en fin de compte, mais c'est toi le grand cri qui ruisselle en mon corps, le grand cri aussi fort que l'amour qui entre aujourd'hui dans ma vie. Ce que j'ai tenté de dire aussi, c'est que l'amour existe à tout âge. C'est tout. C'est pas parce qu'on arrive à un certain âge qu'on est déjà de l'autre côté, si on peut dire ainsi, que l'amour ne peut pas être aussi puissant, aussi violent que ce qu'il était, et d'ailleurs il a peut-être mieux vécu, c'était à ce moment-là, que ce qu'il était dans la jeunesse. Ce qui fait que, voilà, il y a cette espèce de suspicion, si vous voulez, de...
Le silence est porteur de grands cris.
Hein, oui.
Et ce qui est important, c'est ce nouveau départ. En fait, la vie est perpétuelle, renaissance
voilà,
quelque part.
Voilà, c'est ça. Hein? À plus forte raison lorsqu'elle s'appuie sur le partage, sur la complicité, sur l'amour. C'est important.
On va arriver à la fin de cet entretien, mais vous aurez l'occasion de vous entretenir en direct avec Richard. Pour clore en fait un ouvrage qui est chronologique, hein, ça c'est toi qui le dis, c'est un ouvrage chronologique. Il y a les trois derniers poèmes qui échappent, eux, au temps. On peut le dire, ils échappent au temps. Alors il y a question de ton papa. Je cite juste un vers, il est mort à 74 ans. J'ai dépassé son âge, enfin, c'est toi qui le dis, de ta maman, je ne veux pas dormir sur des larmes dans les crins feutrés de la mémoire. Et puis, bon, ça évoque cette transmission qui nous est chère aussi ici, cette double transmission qui est une double présence en fait en toi. Hein. Je ne pense pas que je trahis ta pensée quand je dis ça. Et puis il y a cet ultime poème de cette trilogie finale, on peut dire, qui a intitulé « Où donc poser mes pas ?» Éternel questionnement de l'homme. Où il est question de complicité à l'autre. Alors peut-être que tu peux nous le lire, et je pense que ça peut bien ponctuer cet entretien.
Bon, c'est vrai que tous les poèmes, on en a parlé un petit peu au début, les poèmes sont écrits, sont présentés dans ce livre sous forme chronologique. Mais les trois derniers poèmes ont été regroupés, pas dans un ordre chronologique, pour précisément, parce que le fait littéraire est là, la littérature a ses contraintes aussi, pour bien clore véritablement le recueil et m'appuyer sur trois éléments, enfin du moins dans ce livre-là, trois éléments qui restent essentiels et fondateurs aussi pour moi, fondateur à tout point de vue, mon père, ma mère et l'autre. Et l'autre dont il est question dans le dernier poème. Donc on terminera avec ça sûrement. Et puis, et qui sont trois poèmes aussi où il y a une sorte de bilan. Je fais le bilan de ma propre existence. Donc le premier de ces trois poèmes se trouve page 132. Tu n'as pas su combattre les écueils qui hérissaient ta route. Les sommets se sont rabougris, les cascades ont blêmi sous les brumes. Tes vitres si sensibles ont trahi peu à peu la lumière. Et te voilà éparpillé sur le monde, au petit bonheur la chance, sans espoir d'une source claire où tu pourrais retrouver l'endroit de ta naissance et celui dont tu rêves pour avancer jusqu'au mystère hésitant de la vie. Tu es proche à présent de l'âge auquel mourut ton père, tu pleures comme quelqu'un qui a perdu son visage, tu te cognes au mur d'un domaine où tu croyais pouvoir entrer et trouver le refuge idéal d'une clarté toujours nouvelle, semblable à celle des gerbes de seigle ou d'avoine, qu'avec tes compagnons d'enfance, tu remuais et secouais soigneusement pour les faire sécher au soleil. Tu ne reconnais pas les regards du passé, le temps les a changés en stèles sur les tombes. Qu'aurait-il donc fallu, sous tes mots ressassés, cueillir comme une fleur offerte au soir qui tombe ? Qu'aurait-il donc fallu ?
Il est mort à 74 ans.
Oui, moi j'en ai
76. Et tu as dépassé son âge.
Oui, j'ai dépassé de 2 ans. Qu'ai-je fait en 6 ans depuis la mort de ma mère? J'ai vieilli, j'ai perdu ses traces, comme je perds les miennes, peu à peu, malgré la limpide présence de mes amis et celle de cet amour tardif qui prolonge sur mon corps les vives secousses du sien. Ce qu'en 6 ans j'ai fait, ma demeure l'écoute de toute la force de ses murs, avec l'accord du jardin plein de voix que la brise déroule jusqu'au pied du tilleul où vient de s'asseoir, les yeux fixés sur un rêve, un chat noir semblable à celui qu'on enterra il y a si longtemps, où reposait déjà le chien tant aimé, dont le regard brouillé s'enroulait comme une caresse autour du temps en équilibre sur les escarpements de la vie. Je ne veux pas dormir sur des larmes, dans l'écrin feutré de la mémoire. Ils reviendront toujours s'étourdir parmi les branches, les oiseaux, et les fleurs enchanteront encore les visages penchés sur elles dans l'intime mûrissement des jours où l'on comprend son dernier souffle. Et le tout dernier. Où donc faut-il poser mes pas pour retrouver le sens des ardentes journées que parcourait ma vie, dès le matin ouvert sur la force des bois et celle des prairies pleines de chants d'oiseaux, de brises au souffle lumineux, de murmures revenus d'une source cachée. Où regarder dans l'été qui commence les apaisantes pentes où je pourrais m'étendre en observant le ciel et le flot des nuages qu'enfant solitaire j'accompagnais, sans poser de questions ni regarder en face, car il me suffisait de trembler doucement avec le mouvement du monde toujours secret mais toujours éveillé. Où regarder, sans m'égarer dans la neige qui tombe, sur les branches courbées et le sol languissant où un merle s'étonne, tandis que me reviennent, comme des larmes trop longtemps retenues, des souvenirs lointains dont je n'avais jamais senti avec autant d'allégresse l'inépuisable paix si proche de la joie, de voir venir à ma rencontre une personne qui ne pleure plus et qui s'adosse au même mur que moi. Hein, voir venir à ma rencontre une personne qui ne pleure plus et qui s'adosse au même mur que moi.
Ne serait-ce pas cela la fraternité?
Là, c'est ça, c'est la fraternité. J'ai voulu terminer sur ce partage. J'ai voulu terminer le poème par ça. Oui, c'est la fraternité.
Sur ce beau mot, la parole circule. Si vous avez une ou deux questions, allez-y. Si c'est plus facile, vous pourrez échanger avec Richard lors de la séance de dédicace.
Moi, j'aurais toujours beaucoup de questions à me poser, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. C'est vrai.
Encore un élément qui nous rapproche.
Oui, toujours beaucoup.
Ouais.
Et le fait de vivre ce genre de rencontre et le fait d'échanger véritablement des propos me permettent de creuser encore plus au plus profond de moi-même et en quelque sorte m'ouvre des pistes pour autre chose. Et c'est toujours surprenant parce que c'est quand même un des mystères de la littérature, de l'écriture. Vous avez le texte là, on s'en empare, on en discute. Et il y a énormément de choses qui me reviennent, qui reviennent à l'auteur, comme si c'était une perpétuelle... Pour reprendre l'expression d'André Chélide, qui était une amie très chère, j'aimais bien ce qu'elle disait en parlant de la fraternité de la parole. Cette espèce d'échange qui se fait en permanence. Mais qu'est-ce que c'est que la littérature sinon cela, la fraternité de la parole, en fait. À plus forte raison, la poésie. Enfin, je me perds un petit peu là dans les méandres, non pas des saisons, mais d'une réflexion un petit peu chancelante.
L'essentiel, c'est trouver l'équilibre.
Hein. Oui. Oui, trouver.
Mais chanceler est une bonne chose.
Oui, voilà, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours pareil. Hein. Équilibre.
Bien. Ben, un grand merci de ta présence et de votre attention.
Oui, merci à vous.